d'Arthur de Gobineau, La chasse au caribou. Terre-Neuve. Charles Cabert était fils d'un homme devenu passablement riche dans des affaires où il était question de zinc. Il avait été élevé au collège comme tout le monde, en était sorti sans plus de science que ses camarades, et en garçon distingué, s'était fait recevoir membre d'un club où il perdait assez d'argent pour être traité avec considération. Ses amis lui firent connaître des dames et, afin de ne pas se singulariser, il se résolut un matin à épouser une figurante. Son père avait d'autres desseins et il éleva contre ce projet une assez vive opposition. Pendant 8 jours, le club fut tenu en haleine par les hauts et les bas de cette crise. Charles déclara qu'il épouserait ou mettrait fin à ses jours par un de ces moyens remarquables que les progrès de la science offrent au désespoir moderne. Heureusement, une invasion du géronte irrité dans son délicieux appartement de la rue Taitbout écarta cette cruelle alternative. Charles ne se tua pas et ne se maria pas non plus. Il consentit à partir dans la semaine pour un pays quelconque. Il est à craindre que l'ancien industriel, fort agité, ne se soit abandonné à une pantomime indigne d'un galant homme. Certaines situations sont pénibles pour les âmes délicates. Ne pas exécuter une résolution violente annoncée à l'avance coûte beaucoup, surtout en présence d'un monde où se trouvent toujours des gens enclins à adopter des interprétations désobligeantes. Au fond du cœur, Charles fut pourtant satisfait que son père eût pris des mesures pour empêcher l'impétueuse Coralie de venir lui peindre les horreurs de la situation d'une amante abandonnée. La tendresse de son cœur en murmura, mais il y gagna du calme. Sa seule affaire resta de décider en quel lieu il allait porter sa mélancolie. Ce point voulait être pesé d'après toutes les règles de l'art. Avant tout, l'important était de montrer à la galerie l'excès de ses souffrances. Ceci ne pouvait s'indiquer que par la force des distractions auxquelles il aurait recours. Cette considération excluait actuellement naturellement l'idée d'un voyage sur les bords du Rhin, en Suisse, en Angleterre et même en Italie. De telles promenades ne sauraient appeler sur ceux qui les exécutent aucune espèce d'intérêt. Il y a peu d'années, en s'enfonçant dans la direction de l'Espagne, on aurait eu plus de chance d'ébranler les imaginations. C'eût été s'exposer au mieux, paraître s'exposer à quelques fatigues insolites et donner à entendre qu'on allait affronter les mœurs dangereuses des imitateurs de l'impecignado. Mais depuis la création des chemins de fer de la péninsule, les illusions de ce genre s'affaiblissaient. Après avoir cherché quelque temps, Charles se rappela que plusieurs semaines avant la catastrophe dont il était la victime, il avait soupé chez un de ses amis avec un Anglais bon vivant, lequel avait raconté des histoires de chasse et obtenu un succès estimable par un récit très embrouillé dont Terre-Neuve avait été le théâtre. Le fait avait été jugé piquant et nouveau. Charles résolut d'aller aussi à Terre-Neuve. C'était bien préférable à un tour en Orient, qui dans tous les cas vous expose à prendre un vernis d'archéologue, inconvénient à éviter. Il annonça sa résolution. Elle surprit. Personne de son intimité ne savait au juste où était Terre-Neuve, preuve frappante de la sagesse du parti auquel il s'était arrêté. Il se composa un costume de chasse. Les bottines étaient admirables, justes aux pieds sans les serrer, d'un cuir souple qui ne prenait pas l'humidité, pourvu de semelles fortes sans être dures, couronnées à l'exposition de 1865. Les courses à cheval devant être fréquentes à son avis et souvent nocturnes, il fit confectionner des étriers pourvus de lanternes. Une tente d'une invention merveilleuse, pouvant au besoin servir de bateau ou de voiture, s'enfermant dans un parapluie avec un lit impliant une table et ne prenant pas plus de place que ce qui en peut prendre le moins. Inutile de vanter le nécessaire de toilette. Il était sublime. On pourrait toucher à mots des armes de fusil, de revolver, de Bolesnirlife, le tout de la fabrication la plus nouvelle. Mais ce serait trop s'étendre, il suffit de constater que la somme de ces belles choses, livrées pendant 8 jours dans sa salle à manger, au jugement éclairé de ses amis, persuada Charles, par les éloges qu'elle reçut, de la sagacité de l'esprit pratique qui avait dirigé ses choix. Seulement, de tout cela, rien n'aurait pu jamais servir. Il y a de la différence entre la façon dont on juge les nécessités de la vie sauvage chez les fabricants de Paris et ses nécessités elles-mêmes. Enfin, après avoir, dans un dernier dîner, déploré avec ses compagnons la rigueur de son sort, Charles Cabert monta en wagon et se trouva lancé dans le vaste monde, seul, avec le souvenir de son amour interrompu et ses inénarrables douleurs. Inutile de dire comment il s'embarqua sur un paquebot de la compagnie Canard et débarqua sur le quai de la Saint-Jean de Terre-Neuve. Ces sortes de tableaux sont monotones, à moins de circonstances extraordinaires qui ne se présentèrent pas. Le jeune et intéressant voyageur était porteur d'une lettre de recommandation pour le consul général de Hollande, M. Anthony Harrison. Sa toilette achevée à l'auberge où il était descendu, il s'empressa de se faire conduire chez l'homme qui devait être son conseil et son guide dans la grande entreprise à laquelle il s'était voué et dont il s'applaudissait de plus en plus d'avoir eu l'idée, prévoyant la gloire qu'il allait en recueillir. Un domestique de l'hôtel mena à travers des rues pavées, à peu près, et d'autres qui ne l'avaient pas du tout, jusqu'à un immense magasin construit en planches où siégeait sur une chaise de paille un homme assez gros, étalant sur son genou gauche un mouchoir de poche de coton bleu et inscrivant dans un carnet grossier des chiffres qui lui criaient 3 commis. De ça de là, à droite, à gauche, au fond, sur les côtés et presque sur la tête, des murailles de barils entassés les uns sur les autres contenaient de la morue sèche et salée, précieuse denrée qui fait la fortune de l'île. « Monsieur Harrison ?» demanda le touriste en ôtant son chapeau. « 888, 955, 357, 11, 49, 2453 !» répondit une voix glapissante de l'extrémité du magasin. « Monsieur Harrison, s'il vous plaît, » répéta Charles, poliment incliné, « est-ce ici que je puis le trouver ?»« Hein ?» répliqua brusquement le gros homme au mouchoir de coton bleu. « Qu'est-ce que vous cherchez ?»« Monsieur Harrison, le consul général de Hollande, je vous prie. »« Ben, c'est moi que vous faut-il ?» « Voici, monsieur, une lettre que M. Peterson, un banquier à Paris, m'a chargé de vous remettre. »« Passez-moi ça, mon garçon !»« Quelle brute !» pensa Charles Cabert, et il donna la lettre. « Ah bon, je vois ce que c'est !» dit le négociant après avoir lu. « Bon, mais j'ai pas le temps de causer à 7 heures. Venez dîner avec moi et nous verrons ce qui vous convient. Allez, bonjour !» Ce bonjour était si péremptoire et ressemblait de si près à un ordre sans réplique de débarrasser le terrain que presque instinctivement, Charles se trouva dans la rue. Sa dignité était justement froissée et il se résolut à ne pas mettre les pieds chez un malotru de pareille espèce. Cependant, il réfléchit que s'il n'allait pas chez ce malentru incontestable, il lui était difficile d'aller chez personne d'autre. Et alors, pas de chasse au caribou, il ne lui restait plus qu'à s'en retourner à Paris sans avoir rien fait. Cette judicieuse remarque, née de la droiture de son jugement, fit revenir Charles Cabert à des sentiments plus modérés et décidé à se contenter d'une vengeance épigrammatique, il se tourna vers le domestique de l'hôtel. Celui-ci l'accompagnait et marchait sur la même ligne que lui. Le jeune homme demanda d'un ton méprisant « Mais qu'est-ce que c'est que ce Harrison ?»« Harrison ?» répondit l'Irlandais. « C'est un homme comme vous ne devez pas en avoir beaucoup dans votre seule Europe. Je vous en réponds. Il a donné cette année 500 livres pour les travaux de la cathédrale, 1000 pour les écoles. Il fait peut-être travailler, à l'heure qu'il est, plus de 1500 personnes, et avec l'aide de l'évêque, pas un homme ne le vaut dans le gouvernement colonial. Harrison, mais est-ce que vous ne connaissez pas Harrison dans votre pays? Alors qu'est-ce que vous connaissez donc? Auriez-vous la prétention de croire, mon cher ami, répliqua Charles, un peu stupéfait de l'outrecuidance patriotique de son suivant, que l'on s'occupe à Paris des grands hommes de Terre-Neuve? Quand vous pouvez bien avoir envie de faire les fiers, je ne dis pas, riposta l'homme. Il est cependant assez connu que nous vous avons fait mettre les pouces dans l'affaire des pêcheries, et qui n'est pas un de vos royaumes ou empires du vieux monde qui ne commence à trembler quand l'Amérique lui parle. Vous imaginez-vous que nous ne le savons pas? Il garda cependant le silence, jugeant trop enfantin de se compromettre avec un valet de place, lequel d'ailleurs continuait à marcher à ses côtés en sifflant philosophiquement. À 6 heures, on annonça au brillant Parisien la voiture de M. Harrison. D'après les précédents, il se préparait à monter dans une charrette. Mais ce fut un délicieux coupé dont un groom en livrée, marron et jonquille, lui ouvrit la portière. Il n'avait pas encore fini d'apprécier et de louer en connaisseur le capitonnage de la boîte roulante, que les chevaux s'arrêtèrent à la porte d'un cottage d'une élégance parfaite. Au milieu de la verdure, des fleurs, des plantes grimpantes, 6 marches de granit gris, apportées du continent, menaient à un palier entouré de vitrages, où Harrison lui-même, enceint d'un vaste habit bleu, était établi sur ses fortes jambes. « Oh, oh, mon jeune homme ! Arrivez donc !» cria l'homme considérable en étendant sa vaste main, dont la circonférence parut à Charles contenir plus de 5 doigts. « Arrivez donc, vous dis-je, vous êtes en retard !» Et tandis que de la dextre, le négociant serrait ce que contenait le gant de son hôte de façon à l'aplatir à jamais, de la gauche il saisissait l'infortuné par l'épaule, le faisait tourner sur lui-même avec la facilité d'un tauton et le mettait en présence de 6 jeunes demoiselles et de 8 jeunes gens, dont le moindre le dépassait d'un demi-pied. « Mes enfants !» dit Harrison. Au fond, sur un canapé, siégeait une respectable dame, remarquable par une dent incisive décidément brouillée avec ses compagnes et débordant la lèvre inférieure de plus de 4 lignes. Cette dame était décorée d'un immense bonnet à coque et portait avec une majesté douce une robe de soie noire et une montre attachée à une énorme chaîne d'or. « Ma femme !» cria Harrison. Enfin, contre la fenêtre, debout, se tenait une espèce de géant, quelque chose de pareil au Caligoran du Pulci, un gaillard large comme Elon, un enfant de 8 ans, avec une tête monstrueuse, couverte d'une forêt de cheveux bruns à demi-gris, bouclés de rues les uns sur les autres, et qui, enveloppé, Dieu sait comme, d'un habit noir dont on eût pu habiller 4 personnes raisonnables, le cou très à l'aise dans une cravate bleu clair, regardait avec des yeux de même couleur la personne du nouvel arrivant. « Ah, mon ami, monsieur John Barton, à qui vous allez avoir affaire ?» s'écria encore Harrison en terminant le cercle de ses présentations. Charles était ahuri. Il salua à droite, il salua à gauche. Les femmes répondirent, les hommes peu, et l'on passa immédiatement dans la salle à manger. Un essai de conversation avec Madame Harrison amena celle-ci à des confidences. Depuis plusieurs années, elle souffrait de maux de dents extrêmement répétés. Elle en décrivit avec douceur les principales singularités et s'enquit des connaissances de son auditeur dans la matière. Celui-ci s'efforça de répondre à cette confiance en indiquant des spécifiques, mais, imparfaitement préparé à une pareille discussion, il se vit obligé, pour ne pas rester absolument au-dessous de son rôle, de toucher quelques mots de la Lavalessière du Barry, et il s'étendait avec conviction sur l'éloge de cette substance, quand le bruit de la conversation générale devint si fort qu'il se tourna à demi pour écouter. Madame Harrison, le voyant attentif, laissa tomber l'entretien avec résignation, et il fut tout entier aux propos qui s'échangeaient avec de puissants éclats de voix, des éclats de rire, des éclats d'indignation et de temps en temps un coup de poing violemment asséné sur la table, ce qui faisait sauter sous ce qui était dessus. Et c'est ce que je lui ai dit, hurlait le fils aîné, William. Je lui ai dit, les presbytériens sont des ânes. Il est très connu que les méthodistes ne valent pas mieux. Et bien qu'aux dernières élections, nous ayons consenti à voter à Plaisance pour leur candidat Nile Bay, ça ne signifie pas que nous recommencerons toujours. Oh, si nous avons été battus dans le dernier vote, c'est que cette canaille s'est laissée gagner par l'argent des puritains. Mais je vous l'avais annoncé d'avance, moi, interrompit Edward Harrison. Mais Henri, que voilà, prétendait qu'il n'y avait pas de risque. Mais c'est à cause de Harriet Poole, s'écria la voix argentine de Maria Miss Louisa. Cette observation suscita un rire général. Mais ce n'est pas à cause de Harriet Poole, et si c'était à cause de Harriet Poole, je ne verrais là rien de plus étonnant que lorsque Louisa passa la moitié de ses journées chez Virginie Bailey pour causer avec Tom Bailey, qui est un anabaptiste. Ce n'est pas vrai, riposta Louisa, rougissant jusqu'aux oreilles, au milieu de nouveaux éclats de rire. Ah, ma chère sœur, murmura sa sœur Jenny assez haut pour être entendue. Vous savez bien que si. La voix d'Harrison domina le tumulte. Bon, je suis, s'écria-t-il, de cette opinion qu'il faut en finir, et je me promets de dire à l'évêque en propre terme. Il est fort désagréable, sans doute, de traiter avec les épiscopaux, mais si nous voulons une bonne fois terminer cette question qui touche aux intérêts les plus sacrés de la colonie, je veux dire l'exportation de la morue et la restriction du commerce de la boëte, il faut mettre sous nos pieds toutes les répugnances et voter avec Codam et ses amis, du moins jusqu'à ce que la question soit vidée. Et l'évêque me comprendra, mais c'est assez. Je demande à porter une santé. Le plus profond silence s'établit. Harrison prit son verre et, debout, la main gauche appuyée sur la nappe, dans l'attitude d'un orateur déterminé à émouvoir une grande assemblée, il prononça le discours suivant. « Gentlemen and ladies, des philosophes ont avancé avec raison que, loin d'être une frontière, les fleuves étaient les grandes routes naturelles des nations. Quel jugement porterons-nous donc de la mer la plus immense de tous les fleuves et de l'Amérique, assez heureuse pour voir ses rivages enveloppés de toutes parts par cette grande voie naturelle. Ici, un murmure flatteur salua l'exorde. Harrison continua d'une voix plus haute. « N'en doutez pas, c'est par la mer que le monde sera régénéré, et c'est l'Amérique qui fera le monde d'un peu de sa force, d'un peu de sa vertu, d'un peu de son génie, d'un peu de sa richesse, à ce vieux monde souffreteux, et particulièrement à cette misérable Europe, accablée en ce moment sous le fardeau de son ignorance, de sa misère, de son asservissement. » L'enthousiasme devint énorme. Les huit fils avaient les yeux hors de la tête et buvaient coup sur coup. Les six filles étaient rouges comme des petits coqs. Et M. George Barton approuvait en grommelant de la façon la plus encourageante. Quant à Mme Harrison, elle porta mélancoliquement la main à sa joue gauche, ce qui sembla indiquer l'invasion de quelque douleur lancinante. Harrison, promenant sur cette scène un sourire d'orgueilleuse satisfaction, continua en ces termes. « C'est pourquoi, mes chers concitoyens, je vous propose un toast à notre nouvel ami, M. Charles Cabert, lui souhaitant la bienvenue dans notre pays libre, et désirant du fond de mon cœur que les observations qu'il pourra faire et l'expérience qu'il pourra recueillir l'amènent à comprendre la supériorité de nos institutions et la grandeur de notre avenir. » L'orateur s'assit. M. Charles Cabert s'inclina pour le remercier, et après avoir vidé son verre, il croyait tout fini, quand M. George Barton lui cria d'une voix de stentor, « À votre tour maintenant, répondez !»« Diable !» se dit le jeune élégant, « qu'est-ce que je m'en vais leur dire ?» Tous les yeux étaient fixés vers lui. Il fallait s'exécuter. « Mesdames et messieurs, » commença l'orateur d'une voix émue, pardonnez à un étranger obligé de se servir d'une langue qui n'est pas tout à fait la sienne, bien que, bon, dans ces temps de haute civilisation, naturellement tous les hommes soient frères et faits pour se comprendre. Ce début parut joli, et l'auditoire se montra en satisfait. Charles se sentit dans la bonne voie. Il poursuivit dans ces termes. Le commerce, non, aussi, enfin, je veux dire le commerce et l'industrie éclairée par la science, et la science à son tour, suivant les conseils de l'expérience, sont dans une certaine mesure à considérer comme les piliers de la société moderne, dont je ne crains pas d'affirmer que l'Amérique, avec ses étonnants travaux, éclairés par la science, est incontestablement le couronnement de la liberté. « Hurrah, hurrah !» s'écrièrent Harrison, ses fils et Barton en se démenant sur leurs chaises. Les six jeunes filles frappaient contre leurs verres avec leurs couteaux. Charles, hors de lui d'un si beau triomphe, s'écria « C'est pourquoi, fier de fouler ce sol vierge de toutes les passions qui désolent des contrées moins heureuses, je vous propose la santé de M. Harrison, cet homme si honorable et si pur, de la respectable Mme Harrison, le modèle des mères de famille, de Mademoiselle Harrison, dont les grâces peuvent passer de toutes les louanges, et enfin de M. Harrison fils et de M. Barton, ces citoyens si éminents de la plus belle des parties du monde. » Charles voulut se rasseoir, mais il ne le put pas. Il fut saisi au vol par son hôte, embrassé, et passé à un autre, serré dans les bras de tous les assistants, qui le déclarèrent en hurlant le plus jolly boy qu'ils eussent jamais rencontré, et ce ne fut que couvert d'applaudissements qu'il retomba enfin sur sa chaise. Avec tout cela, il était tard. Charles songea à prendre congé, mais il apprit que son bagage avait été apporté de son hôtel et on le conduisit dans une chambre extrêmement confortable où le maître de la maison, après avoir constaté lui-même que rien ne manquait à son bien-être, le laissa se mettre au lit et se reposer de cette soirée agitée. La nuit, Charles eut une série de rêves. Il était l'évêque de Terre-Neuve, galopait sur les falaises, en grand risque de se casser les membres, à cheval sur un caribou, lequel caribou se trouvait être un prédicateur wesleyen qui lui faisait des grimaces, et un nuage de morue salée le poursuivait, criant autour de lui pour qu'il leur fît un discours. Une si grande agitation, surexcité outre mesure par tout ce que Harrison lui avait fait boire, se calma vers le matin, et il dormait profondément quand il fut réveillé par l'entrée de deux personnes dans sa chambre. Les deux personnes étaient Harrison et Barton. « Encore couché ?» dit le premier. « Oh, je suis fâché de vous tirer de votre sommeil. » Mais il est tard, 6 heures au moins, et mes affaires m'appellent. J'ai cependant pas voulu partir sans vous annoncer mes arrangements pour vous. Voici M. Barton, mon ami, propriétaire d'un bel établissement pour la pêche des phoques. Il part demain matin et vous emmène. Des caribous, il vous en fera chasser tant que vous voudrez. Tuer de la perdrix et du courlieu, pêcher du saumon et de la truite, enfin, tous les sports imaginables seront à votre disposition. » Charles voulut remercier, mais Harrison ne lui en laissa pas le temps et continua. « Oh, il est pressé de s'en aller. Cependant, comme nous tenons aussi, nous, à vous garder un peu, il a consenti à ne se mettre en route que cette nuit à 2 heures. Vous passerez la journée avec mes filles, et ce soir, nous aurons un petit bal en votre honneur. « Allô, mon garçon, frottez-vous les yeux, sautez en bas du lit, et tâchez de vous amuser puisque vous n'avez que cela à faire. » Sans attendre aucune réponse, Harrison sortit de la chambre avec son ami, qui n'avait pas ouvert la bouche, et Charles, un peu blessé de la façon dégagée dont on disposait de lui sans consulter ses convenances, mais savoir toutefois lui-même que tout était pour le mieux, ne put pas se rendormir et prit le parti de commencer sa toilette, opération toujours longue chez quelqu'un qui se respecte, mais qu'il traîna encore plus que d'habitude afin de faire sentir à ses hôtes l'étendue de son indépendance. Je ne sais s'ils le comprirent, mais quand il descendit au salon, il y trouva les 6 jeunes filles déjà dans de brillants atours, et pas un des garçons, ceci étant comme leur père à leurs affaires. Il fut reçu en vieille connaissance, et 6 jolies mains serrèrent la sienne. Les interrogations sur Paris, sur les spectacles, sur les promenades, sur la mode, commencèrent, s'animèrent, et son rôle devint assez brillant. On apporta le thé, force jambon, viande froide, pain grillé, confiture, le tout pour aider l'estomac à prendre patience jusqu'au déjeuner. Les sœurs le servirent avec une gentillesse infinie. Cependant, il aurait pu remarquer que les attentions des 3 aînés n'étaient que polies, tandis que celles des 3 cadettes impliquaient un certain désir de plaire. Au plus fort de la conversation, et comme Charles essayait de dessiner, d'une main assez inhabile, le modèle d'une chemisette dont il venait de dire des merveilles, la porte s'ouvrit avec fracas, et un jeune homme, très brun, avec des cheveux noirs bouclés, des yeux comme des charbons, une barbe touffue et des moustaches épaisses, se précipita dans l'appartement en poussant un grand éclat de rire. Jenny rougit profondément, se leva, marcha droit à l'arrivant Ils se serrèrent la main avec un intérêt qui ne se dissimulait pas. Au même instant, Harrison faisait son entrée d'un autre côté. « Bonjour, mes petites demoiselles, comment vous portez-vous » cria le bruyant personnage, si bien accueilli par Jenny. « Bonjour, Harrison. Eh, vieux père, comment va cette santé ? Très bien, tant mieux. Tant mieux, vous dis-je. Vive les amours et la vertu d'Irlande. Ah, c'est vous, monsieur le français ? Charmé de vous voir. Nous parlions de vous tout à l'heure sur le port, et il ne s'en fallut de rien que je ne vous ai lancé à travers les jambes un article qui, j'en suis sûr, aurait fait tomber le ministère colonial comme un capucin de carte, et peut-être même renvoyé le gouverneur en Angleterre avec accompagnement de pommes de terre dans le dos. « Il s'agit de moi ?» s'écria Charles au comble de l'étonnement. « Oui, oui, de vous-même, en propre personne. » « Jenny, mon cher ange, donnez-moi une tasse de thé, je vous prie, et 8 tartines. » Jenny n'avait pas cessé de regarder avec l'admiration la plus convaincue et la plus tendre le nouvel arrivé depuis son invasion dans la chambre. Elle s'empressa de le servir pendant qu'il continuait son explication. « Oui, vous dis-je, j'allais vous empoigner dans vos journaux l'informateur commercial. » Et voilà comme j'avais l'idée de vous prendre. Je débutais ainsi. Le gouvernement de l'Europe, à bout de voix, réduit au désespoir par l'intrépide attitude du Parlement colonial, forcé de reculer devant les manifestations redoutables d'un peuple libre, se sont décidés à recourir aux manœuvres du machiavélisme le plus effréné. Nous apprenons de sources certaines par nos correspondants de Paris. Je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur le père, que j'ai à Paris le moindre correspondant, mais ces choses-là plaisent aux abonnés. Nous apprenons, dis-je, qu'un nommé Rupert, Cabert, dit tout haut la jolie Jenny. Oh, Cabert, oh, je vous remercie, Jenny. Vous êtes toujours la meilleure fille qu'il y ait au monde. Cabert, Robert, Rupert, Chabert. Homme taré, employé depuis 20 ans dans les basses œuvres les plus révoltantes de l'inquisition politique. Ah, ça, mais monsieur, s'écria Charles. Silence, jeune homme, laissez-moi finir. Vient d'arriver à Saint-Jean dans l'intention déclarée d'acheter la connivence de nos ennemis. Nous sommes l'administration vénale qui nous opprime le plus avoué pourquoi ces conférences multipliées avec ce Robert. Et j'en étais là quand on m'a appris que vous étiez des amis d'Harrison. Dès lors, vous aidez bien à la vie, à la mort. Ayez un procès, je suis avocat. Une querelle, je ne manque jamais mon coup. Ah, ne me demandez pas d'argent, je n'en ai pas. Mais prêtez-moi, si vous voulez, je vous le rendrai jamais. Quel malheur que vous soyez l'ami d'Harrison. Mais, monsieur, ceci passe à plaisanterie. Vous aviez l'intention de me calomnier de la manière la plus... Oh, laissez donc. Si nous avions pu, avec ce coquin-là, ne réussir à ce que nous voulons, j'avais une proposition, moi. J'épousais Jenny que voici, et que son crocodile de père ne me refusait pas plus longtemps, sous prétexte que je n'ai rien, et vous ne vous en portiez pas plus mal. Bon, mais c'est assez causé. Il faut aller au tribunal plaider pour Hodgson contre Watson. Cet imbécile-là, enfin je dis Watson, m'avait apporté sa cause le premier, et figurez-vous, mais il n'a jamais voulu entendre me donner 50 livres de plus que mon frère Hodgson, de sorte que j'ai passé à l'ennemi, enseigne déployée, tambour battant, mèche allumée, cavalerie cavalcadant, canon sautant. Et l'orateur se mit sur ses pieds, imita ce qu'il décrivait avec un tel entrain que l'assistance partit d'un fou rire. « Quel cervelé que c'est Hollary !» dit Miss Maria en s'essuyant les yeux. « Oh, la gaieté milésienne, mes enfants ! Ah, à propos de Jenny, avant que je parte, je vous en prie, je vous en supplie, jouez-moi la dernière rose de l'été. Ça me donnera du cœur pour tout le jour. » Jenny s'assit au piano et chanta la chanson irlandaise. Charles ne prit pas trop garde, car la conversation était plus bruyante que jamais, tandis que les deux amants s'absorbaient dans leur musique. Cependant, tout en écoutant une dissertation passionnée de Harrison sur le prix probable auquel la morue allait monter cette année, il vit que Hollary, assis sur un tabouret à côté de Jenny et accroupi comme un singe, s'était caché la tête dans ses mains et, aux dernières notes du chant, quand il releva son visage, l'avocat avait des larmes plein les yeux. Il se releva brusquement, tira à lui Jenny, la considéra d'un regard plein d'amour et sortit comme il était entré. La journée se passa à merveille. Les jeunes filles menèrent Charles à la campagne. Madame Harrison ne parut pas et il ne fut pas question d'elle. On mangea, on se promena et on se mit à table régulièrement à l'heure du dîner qui fut solennel. Il y avait 32 convives et parmi eux des personnages marquants. Ensuite vint le bal. Jenny dit à Charles, « Voulez-vous me permettre un conseil ? Mais je vous en serai très reconnaissant. Ne dansez qu'avec mes trois dernières sœurs et les jeunes personnes que je vous indiquerai. Celles-là ne sont pas encore engagées ni en voie de l'être, au moins que je sache. En vous adressant aux autres, on vous laisserait faire parce que vous êtes étrangers, mais vous feriez de la peine à quelqu'un. » L'idée de ménager les sentiments d'autrui parut si singulière à Charles qu'il ne put s'empêcher de répondre « Mais mademoiselle, je ne suis pas forcé de savoir que monsieur un tel s'occupe de mademoiselle une telle. » « Vous n'êtes pas forcé de savoir, sans doute, répliqua innocemment Jenny, parce que vous êtes étranger. Mais je vous le dis, et d'ailleurs encore une fois, si vous voulez absolument danser avec quelqu'un, je suis sûr qu'on se fera un plaisir. Pourtant, ce n'est pas l'usage. » En ce moment, Hollary, décoré d'une immense cravate blanche et montrant ses 32 dents par l'effet du sourire le plus jovial, s'approcha en s'écriant « Dites donc, grand-mère, si vous voulez danser avec Jenny, ne vous gênez pas. Je suis sûr que l'on sera très contente. » « Bien certainement, dit Jenny. » Charles se sentit blessé, il devint rouge et dit d'un ton sec, « Monsieur, je ne m'appelle pas Rambert, mais Cabert, Cabert. »« Cabert, forever, hurrah !» cria l'Irlandais. Et prenant Cabert par le milieu du corps, il l'éleva jusqu'au plafond de la salle, le montra un instant aux conviés qui applaudirent, et le reposa à terre pour le serrer sur son cœur. Jenny le détacha de ses étreintes, à moitié étouffée, rouge, indignée, exaspérée, et l'entraîna au milieu de la contredanse déjà commencée. Le mouvement le calma un peu. Il comprit le ridicule dont il se couvrirait en prenant au sérieux la façon inadmissible d'un Hollary. Il se persuada donc de condescendance à une conversation avec Jenny, et celle-ci ne lui cacha pas que, dans son opinion, pas un homme sur la terre ne valait le petit doigt du turbulent Irlandais. Quand la musique cessa, Charles alla faire un tour dans le jardin afin d'échapper un instant à l'horrible chaleur répandue dans les salles où la foule s'encombrait, et il vit avec admiration un nombre considérable de couples qui, tête à tête, chacun pour soi et ne pensant qu'à soi, s'enfonçaient dans les allées sombres ou même entraient dans un kiosque fort obscur sans qu'aucune mère, aïeule ou tante accourût pour s'en préoccuper. « Quelle mère !» se dit en lui-même Charles, avec une vertueuse indignation. mépriser ses hôtes, leurs amis, la population tout entière, lui causa une sensation ineffable. Il se sentit soulagé. On le comblait d'attention et on l'étouffait de cordialité, mais on l'offensait à chaque instant. Il était opprimé, et, ce qui est sans doute la plus dure des conditions, il éprouvait l'instinct secret de sa faiblesse, honorable, flatteuse même, puisqu'elle provenait de la distinction exquise de sa nature, mais enfin de sa faiblesse, et partant de son infériorité vis-à-vis de ses natures brutales. On peut imaginer que dans les temps où les barbares du Nord envahissaient l'Italie, et, de gré ou de force, s'asseyaient dans toutes les chaises curules de l'Empire, les Romains élégants, qui réellement ne pouvaient pas prendre au sérieux des gens pareils, devaient éprouver des sentiments analogues à ceux ressentis par Cabert au milieu des hommes riches de Saint-Jean. Comme il s'enfonçait dans ses méditations avec un surcroît d'amertume, d'autant plus marqué que le froissement de toutes ses robes blanches et l'écho de certaines phrases arrivant à ses oreilles lui portaient fort sur les nerfs, une demi-douzaine de jeunes gens l'entoura et on le pressa de venir boire un verre de vin, ce qu'il ne put refuser. Il remarqua dans la bande un officier qui lui parut assez mélancolique. Comme il lui fit l'honneur de lui trouver l'air distingué, il interrogea O'Larry à son sujet. « Ah, vous voulez dire O'Callaghan ?» répondit l'avocat en prenant une physionomie attendrie que Cabert trouva ridicule au premier chef. « Oh, pauvre diable, oui, il est né ici. Il est entré dans un régiment anglais. Il est devenu amoureux de cette diablesse de Kate Sullivan, la plus jolie fille de l'Amérique, assurément, après Jenny Harrison. » Son corps a été commandé pour la Crimée et c'était une superbe affaire, car il était à peu près sûr de revenir capitaine sans bourse déliée. Oh, il lui est assez difficile de délier sa bourse par la bonne raison qu'il n'en a pas. Mais Kate lui a fait ce petit discours. « John O'Callaghan, si vous restez ici, je vous attendrai, fût-ce 20 ans. Mais si vous partez, je ne réponds de rien. » Et il est parti ? Non, il est resté. Il a permuté avec un autre officier dans une compagnie coloniale. Et il n'est pas capitaine, mais il voit Kate tous les jours. Et il attend. Il s'est déshonoré. Qui, O'Callaghan ? Non, pourquoi déshonoré ? Mais comment ? Mais ce régiment va se battre, il reste auprès d'une femme. Oh, mais ça vous plaisantez, quel mal voyez-vous à cela? Mais le mal que tout le monde a dû dire qu'il avait peur. O'Callaghan avoir peur, voilà une bonne idée. Non, mon cher et aimable petit monsieur, nous autres Irlandais, nous n'avons pas peur, et nous nous soucions très peu de l'opinion des sots. C'est le colonel lui-même qui a conseillé à O'Callaghan de rester ici. Il n'y a pas un plus grave garçon dans le monde. Et celui qui dirait le contraire pourrait s'attendre à recevoir sur la figure les deux poings d'O'Larry, qui pèse quelque chose, on vous en répond. Ah, je voudrais être chez moi dans la rue Tête-Boue, pensa Charles. Il en avait assez de toutes ces violences. Mais à ce moment, on vint le prévenir que George Barton l'attendait à la porte. Il avait vu le colosse dans le bal avec un habit noir et une cravate cerise à points bleus. Il le retrouva sur le perron en bottes de pêche montant jusqu'au ventre, avec un paletot de gros drap qui paraissait bien avoir 3 pouces d'épaisseur, un cachelet en laine tourné à un nombre infini de fois autour de son cou de taureau et un chapeau sans forme et sans couleur. Harrison était à côté de son ami. Les 8 fils de Harrison derrière leur père, les 6 filles devant lui et peu à peu, tout le bal se trouva rassemblé. « Il est 2 heures du matin, » dit Barton, « il faut partir. » Bonsoir, la compagnie. Vos bagages sont sur ma goélette et vous vous habillerez là, pour la mer. Adieu donc, mon garçon, s'écria Harrison avec un shake-hands formidable. Pardon de vous avoir pas mieux reçu. Encore un verre de vin ? La vieille femme a mal aux dents et m'a chargé de ses compliments. Versez plein tous les verres. Y êtes-vous ? Gentlemen and ladies, hourra pour Charles Cabert. Hup, 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 hourra ! Tout le monde beugla. Once more, hurla Harrison, hup, 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 hourra ! Les vitres tressaillirent et la maison parut prête à s'écrouler. Maintenant, reprit Harrison, retournez danser. J'accompagnerai mon hôte à la goélette avec mes fils et ceux qui voudront venir. Mais nous irons tous, cria la foule. O'Larry se précipita tête baissée, saisit Charles par le milieu du corps, l'assit sur son épaule, et malgré les coups de pied que celui-ci lui assénait dans la poitrine, l'emporta rapidement vers le quai, tout en vociférant des hurrahs. Arrivé à destination, Charles fut posé à terre. Les embrassades recommencèrent. Barton y mit fin en entraînant son compagnon et en retirant la planche qui leur avait servi à gagner la goélette. Mais tandis qu'il manœuvrait avec les deux hommes formant son équipage pour se débrouiller hors des nombreux bâtiments au milieu desquels il avait été mouillé et gagner la sortie du port, on entendit longtemps encore des hurrahs et des « Cabert forever !» à défrayer toute une élection anglaise. « Allez botter ces jolies choses que vous avez sur le corps, » dit Barton, « et mettez-vous en tenue de mer. Voilà la cabine. » Charles trouva le conseil bon et entra. Mais à la lueur de la petite lampe pâle qui éclairait la cellule navale, il eut beaucoup de peine à savoir où placer le pied, car le plancher était couvert de paniers de provisions de toute espèce, de bouteilles de toutes formes, Bordeaux, Champagne, Sherry, Marsala, Eau-de-Vie, Rhum, Ale Porter, et Spruce, dont la solitude d'Harrison avait pris soin d'approvisionner son voyage. « Horrible bête !» pensa Cabert, révolté plus que touché par cette magnificence de mauvais goût. Il était si exaspéré contre les gens au milieu desquels il était tombé, et d'ailleurs si épuisé de fatigue, qu'au lieu de changer de vêtements et de revenir sur le pont, il se coucha et s'endormit d'un profond sommeil. Quand il s'éveilla, il fut comme aveuglé par le jour. Il regarda sa montre. Il était midi. Mais la goélette dansait horriblement. « Oh, il manque plus que cela !» se dit le jeune homme. « Un gros temps. Oh, probablement nous sommes en retard, que nous devrions être rendus. Oh, j'imagine que ce monsieur Barton demeure à quelques heures de Saint-Jean. » Bon, dans tous les cas, voyons un peu. Charles s'habilla, non sans peine, en luttant contre le roulis et le tangage, et il arriva, trébuchant, sur le pont. Il pleuvait à verse, et le vent soufflait à décorner les bœufs. Barton était à la barre, couvert de toile cirée et fumant son cigare. « J'ai bonne chance, » dit-il à Cabert en souriant avec aménité. « Si nous pouvons garder ce même vent pendant 3 jours, dans 8 jours nous serons chez nous. »« Mais comment, dans 8 jours ?» s'écria Charles au désespoir. « Mais où allons-nous donc ?»« Ben, sur la côte ouest, j'imagine. Et à moins que mon îlot n'ait changé de place à 15 000 de la baie des îles. » « Où croyez-vous donc aller ?»« Je croyais que votre maison de campagne était dans les environs de Saint-Jean, et si j'avais pensé... »« Ah, maison de campagne, le nouveau est joli. Pour qui me prenez-vous ? Je vais vous faire voir des choses dont vous n'avez pas la plus petite idée dans votre Europe pourrie. D'ailleurs, puisque vous voulez chasser le caribou, il vous faut bien aller sur la côte ouest. Le propre des gens vraiment civilisés et raffinés est de se soumettre à leur sort. Les barbares seuls sont obstinés dans leur résistance. Charles passait sa vie, depuis son arrivée dans ces tristes parages, à constater des faits révoltants, mais en même temps, la nécessité de les subir. C'est ce qu'il fit encore, cette fois-là, et d'autant mieux que le mal de mer le prit avec une violence marquée. Barton, qui lui avait proposé d'apprendre quelque chose de la manœuvre afin de se rendre utile, ce qui, disait-il, est toujours agréable, il renonça de bonne grâce quand il vit son passager étendu livide sur le pont et livré à toutes les angoisses d'une souffrance si cruelle. Il le porta sur le lit, le soigna par le punch, par le jambon cru, par le poisson cru, par la pomme de terre, et finit par laisser dormir le patient. Comme si le temps eût été à ses ordres, le vent désirait ce matin pendant les 3 jours. Peu à peu, tout se calma, la proie ne tomba plus, la pluie ne tomba plus, continuellement, il y eut des éclaircies. Mais généralement, une brume blanchâtre flottait sur les eaux troublées du golfe Saint-Laurent et les côtes de la Grande Terre étaient plus ou moins voilées dans le brouillard. Comme la goélette ne s'en tenait pas loin, on voyait défiler les grèves stériles, les bois de sapins sans grandeur, la verdure ruisselante d'eau, les roches moussues. Ce n'était pas beau, mais très sauvage. Charles s'ennuyait à cœur joie et regrettait de toute son âme l'idée qu'il avait eue de se singulariser d'une façon si désagréable. Il maudissait son père qu'il avait fait partir, ses amis qu'il avait félicités de son plan et Coralie, cause première de son malheur. Puis il s'endormait. Le 8e jour, à 4 heures du matin, George Barton le réveilla. « Allons debout, lui dit-il, on va mouiller tout à l'heure, nous sommes arrivés. Lucie vient devant de nous. »« Qui est Lucie ?» demanda Charles en se frottant les yeux. « Ma fille, donc, » répondit Barton. Par exception, la journée s'annonçait assez belle. Les nuages ouverts laissaient voir le bleu du ciel à travers leurs déchirures. La goélette entrait vent arrière dans une baie tranquille, formée par les deux pointes d'un îlot de rochers. Pas un arbre, pas un buisson, pas un brin d'herbe. À droite, une grève sur laquelle séchaient des morues. À gauche, 2 ou 3 magasins en bois, couverts de toiles goudronnées. Au fond, une assez grande maison à un seul étage, moitié plaire, moitié planche. Quelques hommes circulaient çà et là, clouant des barriques ou faisant quelques gros ouvrages. Des groupes de chiens jouaient dans l'eau, avec autant d'enfants réunis autour des barques tirées à terre. Une embarcation menée à la rame par 2 jeunes filles, avec la précision que les baleiniers d'une frégate de guerre eussent pu y mettre, arrivaient sur la goélette. Une autre jeune fille tenait la barre. « Ah, c'est Lucie !» répéta Barton en bourrant une nouvelle pipe. « Et si vous en trouvez une autre comme celle-là pour aller au large par une bonne brise, aussi tranquille qu'au coin de son feu, faire son chargement de harengs là où mes hommes ne prennent rien, je lui tirerai mon chapeau à celle-là. » L'objet d'un éloge aussi enthousiaste accosta vivement la goélette, et tandis que les 2 autres filles restaient dans l'embarcation, Lucie grimpa à bord sans que son père parût même avoir l'idée de lui tendre la main pour l'aider. Il ne le fit que quand elle s'approcha de lui et en manière de caresse cordiale. « Eh bien, Lucie, ma bonne fille, Vous allez comme à votre ordinaire, dit Barton avec un gros sourire. Ah, voilà un autre que je vous amène de Saint-Jean, Monsieur Charles Cabert de Paris. Lucie fit une sorte de salut un peu effarouché. Elle était habillée comme une barbare. Une robe d'indienne bleue, un fichu de soie rouge au cou. Une servante respectable n'aurait pas voulu de ses atours. Cependant, Charles, en faisant cette réflexion avec un juste mépris, ne put s'empêcher de remarquer que les yeux étaient splendides, les couleurs d'une fraîcheur nacrée et rosée incomparable, les cheveux du blond le plus avenant et d'une opulence magique et tous les mouvements empreints de cette grâce parfaite qui ne s'apprend pas et que la nature seule peut donner aux êtres heureux auxquels elle a accordé une taille sans défaut. « Vous allez bien vous ennuyer avec nous, monsieur, » dit Lucie en levant timidement les yeux sur le nouvel arrivant. « Ah, oh, mademoiselle, » répondit celui-ci. Et il s'inclina, parce qu'il serait de mauvais goût de nos jours de se répandre en compliments vieillis. C'est déjà beaucoup de les sous-entendre. On arriva rapidement près de terre, et au moyen de l'embarcation amenée par Lucie, on descendit. Barton avait communiqué à sa fille cette nouvelle agréable qui lui rapportait de Saint-Jean beaucoup de choses. « Voyez-vous, ma chère, » avait dit le gros homme, « j'ai là pour vous une armoire à glace, comme la reine d'Angleterre n'en a pas. 8 robes de soie et tout ce que j'ai pu trouver de chapeau et autres fanfrelouches, votre passion à vous, autre femme. Je vais faire débarquer le tout devant mes yeux et je vous rejoindrai à la maison. Vous conduirez d'abord, Monsieur Cabert, dans la chambre que vous jugerez la meilleure pour lui. » C'est ce qui fut exécuté. Lucie, avec l'empressement d'une maîtresse de maison pénétrée de ses devoirs, introduisit Cabert dans un appartement assez joli, tout en sapin, plancher, plafond et murailles, et après y avoir porté elle-même, en un tour de main, une table et une commode qui manquaient, tandis qu'une servante prodiguait les serviettes et autres menus détails, elle sortit et laissa Charles en possession de son domaine. Belle, sans doute, se dit-il, mais muette comme les poissons qu'elle fréquente. Aussi sotte, elle va la part à la dernière des femmes de chambre, au Coralie. Il se mit à la fenêtre. Ce n'était au-dessous que roche et sable. Un peu au-delà, la mer. À droite, les côtes de la Grande Terre avec leurs sapins. À gauche et plus au large, 2 immenses montagnes de glace. Ces masses blanches semblaient clouées sur les vagues pour l'éternité. Charles bâilla. Il eut un moment de découragement pénible. Pourtant, il se secoua et commença sa toilette avec l'intention charitable de montrer à ses malheureux hôtes ce que c'est qu'un homme élégant, afin qu'ayant joui une fois dans leur vie de cette brillante apparition, ils puissent ne l'oublier jamais. Ce travail prit du temps et avait bien duré 2 bonnes heures quand il entendit les pas de Barton dans le corridor. Ces maisons de bois sont d'une sonorité désespérante et on ne serait remué à un bout qu'à l'autre ne l'apprenne. « Je vous cherche pour déjeuner. C'est dimanche aujourd'hui et je vous ai envoyé chercher un homme d'esprit qui causera avec vous à la française tant que vous voudrez. C'est Monsieur John, notre maître d'école. J'ai aperçu aussi au large la yole de mon fils Patrice. Depuis 15 jours, il chasse au Labrador. Comptez sur lui pour vous faire tuer les caribous. » Charles fut un peu blessé de ce que Barton ne parut pas sentir l'immense distance qui sépare un homme convenablement habillé d'un autre qui n'est que vêtu. Le fait est que le pêcheur de phoques n'y eut pas la moindre malice et n'en eut que plus tard, ce qui ne m'empêcha pas de conduire Cabert tout droit dans le salon.